Cap Sport, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 19h et on va lancer un débat. Est-ce que le IVTT a sa place en compétition? On va fleurir par-ci par-là sur les courses de nos régions, des catégories VTT avec assistance électrique, évidemment, ça plaît aux adeptes, ça peut gêner les puristes et on aura un représentant de chaque communauté, entre guillemets, pour en débattre. Le football, on reviendra sur l'énorme claque prise par Neuchâtel Xamax hier soir en barrage aller de Super League. Pierre Thévenin, ancien joueur des belles années 80, sera notre invité et la finale de la Ligue des Champions au programme, bien sûr, Liverpool. Tottenham affiche 100% British. C'est demain au Metropolitano de Madrid et on en parlera avec notre consultant football Cyril Maillard.
Cap Sport, Jérémy Pignard.
C'est à la mode, le IVTT, traduisait le VTT électrique. Il s'est déjà largement imposé pour la pratique loisir. Il commence à se faire une place en Suisse en compétition. Par exemple, le Trophée Jurassien, cette année, a créé des catégories IVTT sur certaines courses. Certains puristes peuvent voir ça d'un mauvais œil. Il y a débat. Est-ce que le IVTT a sa place en compétition? Justement, on a un spécialiste pour en parler. Henri Lachat, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Monsieur IVTT dans le Jura, d'ailleurs vous en vendez, mais vous êtes aussi compétiteur. Plusieurs grands raids Evolen Grimens à votre actif, plusieurs fois le Roc d'Azur à Fréjus également. C'est l'une des plus grandes manifs du VTT en Europe pour le plus grand public. Et d'ailleurs, vous êtes en Valais sur un IVTT en ce moment même. Et on accueille également un VTTiste plus traditionnel, classique, Mathieu Lovy. Bonsoir.
Bonsoir.
Compétiteur également, entraîneur VTT aussi dans la région de Delémont. Avant de poser le débat, peut-être expliquer de quoi on parle. Henri Lachat, c'est quoi techniquement un IVTT? On a une assistance électrique quand le relief commence à être difficile. On a un moteur qui nous fournit de la puissance constante. Comment ça marche en fait?
Alors, le IVTT est un vélo équipé d'une assistance, je dis bien assistance et non pas un moteur.
Ouais.
Pour pouvoir se déplacer, un VTT a besoin d'un effort de la part du cycliste. Sinon, rien ne se passe. Donc, on voit qu'on n'est pas loin du cycliste lambda.
Mais c'est un moteur qui fournit quel type de puissance? On arrive à quelle performance avec ce genre de machine?
Alors, pour un cycliste, on va dire du Trophée Jurassien, on peut dire qu'on peut doubler sa puissance de pédalage.
Ah, quand même.
Voilà, oui, effectivement. C'est pour ça que le IVTT devrait être considéré comme un sport vraiment à part. Vraiment un sport, un nouveau sport de VTT et non pas une catégorie par rapport au VTT traditionnel.
Alors justement, on va y venir. Henri Lachat, on vous laisse juste une petite minute pour peut-être essayer de vous mettre à l'abri du vent parce qu'on entend encore pas mal le vent du Valais souffler dans votre téléphone. Mathieu Lovy, il vient de nous expliquer, Henri Lachat, en quoi ça consistait grosso modo, voir débarquer le IVTT en compétition. Est-ce que pour vous, c'est un sacrilège? Est-ce qu'il a sa place?
Alors, moi, en tant que puriste, c'est clair que je privilégierais des compétitions sans assistance vélo-électrique, mais bien sûr qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir à ce genre de pratique. Simplement, moi, ça me gêne un petit peu que ça soit mélangé directement avec les autres compétitions en même temps. Je rejoindrais volontiers Henri Lachat sur le fait de dire que c'est un autre sport, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui va vraiment dans un sens que c'est quand même un peu plus facile. Et je trouve que ce serait intéressant de développer ça, surtout pour les personnes un peu plus âgées ou les personnes qui ont peut-être un physique un peu moins
performant,
top et performant, ouais, que quelqu'un qui veut se lancer dans de la pure compétition. Mais je serais presque déçu de voir un jeune de 18 ans qui dit « moi, je me lance dans le IVTT ». Pour l'instant, je n'ai pas encore fait le cap. Passer le cap pour dire effectivement, ouais, cool, il va faire un nouveau sport. J'aurais un peu du mal, quoi.
Henri Lachat, est-ce que ça vous fait bondir ce que dit Mathieu Lovy? Parce que j'imagine que vous revendiquez aussi le fait des sportifs de haut niveau, vous, les IVTistes.
Alors, c'est clair, je comprends tout à fait, c'est exactement la réponse que j'entends souvent. C'est que c'est pour le, on va dire, entre guillemets, pour les vieux. Mais en fin de compte, c'est vraiment pour le loisir que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que simplement avec l'aide, on peut reprendre une activité en douceur, ne plus éviter les pentes difficiles, aller plus loin, c'est clair. Mais en compétition, c'est différent. La compétition, qu'est-ce qu'on fait? On cherche vraiment le maximum de technique, de performance, de fun, quoi. Donc, c'est clair que en ayant pratiqué les deux sur les mêmes courses, mais via des catégories différentes, on voit que la grande différence entre les courses de VTT et le VTT traditionnel sont les phases de récupération. Elles sont beaucoup plus courtes et aussi plus souvent possibles sur le parcours, ce qui rend la course en VTT encore plus intense au niveau pulsation musculaire. Sur le technique, même en montée, il faut une nouvelle technique parce que c'est vrai que les montées se font plus rapides. Il faut plus se concentrer. C'est vraiment différent.
Ça veut dire qu'il faut apprendre à maîtriser une machine, c'est ce que vous nous dites.
Voilà, c'est surtout, il faut faire corps avec sa machine comme on fait corps avec un VTT traditionnel, si on veut. Il faut utiliser toutes les capacités. Et puis ça, en l'ayant fait, c'est quand même différent, quoi. Il faut dire ce qu'il est. Ça donne des performances supplémentaires, mais si on met le même compétiteur dessus, ça devient plus difficile, quoi.
On a des exemples parce que Julien Absalon, le Français qui est double champion olympique, quatuple champion du monde, 7 fois vainqueur de la Coupe du Monde, il s'est reconverti après sa fin de carrière l'an dernier dans le IVTT. Il en est d'ailleurs le premier champion de France officiel de ce nouveau sport, entre guillemets. Mais Mathieu Lovi, dans la notion de vélo, même dans la notion du sport, en fait, l'essence même, c'est aussi l'effort, la difficulté, le fait d'en baver. Les VTTistes, ils ont toujours aimé ça. Est-ce que mettre l'électrique là-dedans, c'est pas finalement tuer le vélo et l'essence qu'on a voulu faire de ce sport?
Alors, je crois qu'il faut faire très attention. Moi, j'ai eu l'occasion de rouler en vélo électrique. Il faut savoir qu'on peut vraiment se mettre à bloc, même avec un vélo électrique. Je crois que c'est clair, la petite dame qui rentre de la côte avec son vélo électrique, elle va monter tranquillement.
Là, on parle de loisirs.
Raide, ouais. Voilà. Mais je pense que le compétiteur, il peut se mettre à bloc même avec son vélo. Après, je pense... Où moi, je suis un peu frustré en VTT électrique, c'est toutes les portions de plat, parce que clairement, à partir de 25 à l'heure, je ne suis plus aidé avec mon moteur. Et puis, clairement, moi, je roule plus que 25 à l'heure au plat. Donc, le vélo est lourd, le vélo me gêne. Et puis, en descente, moi, j'ai nettement plus de plaisir avec un vélo léger, maniable. Et de ce côté-là, je n'ai pas encore du tout fait le pas pour pouvoir me lancer et me dire, moi, je passe dans ce type de sport. Puis après, la deuxième chose, c'est que moi, je suis vraiment passionné par mon sport. Et le côté un petit peu écologique de ce sport, entre guillemets, m'attire. Et puis le fait de devoir être dépendant d'une batterie, devoir recharger, etc., me chagrine un peu. Et puis la deuxième chose, c'est accepter sa limite, quoi. Est-ce que finalement, je suis capable de faire telle performance? Est-ce que c'est pas finalement un dopage mécanique qui arrive là, puis se dire, avec mon vélo, maintenant j'arrive quand même à monter cette bosse à 20 à l'heure, alors que physiquement j'arriverai pas. Voilà, c'est clair. Moi, je comprends. Hein. Je connais assez de monde qui pratique ce genre de compétition. Ils ont du plaisir, c'est grisant, etc. Mais moi, je reste quand même un puriste de l'effort et je serais quand même aujourd'hui, j'encouragerais quand même un jeune de 16, 18, 20 ans à d'abord faire des compétitions de VTT sans moteur avant de se lancer dans ce genre de compétition.
Henri Lachat, Mathieu Lovi a parlé de dopage mécanique et je voulais justement oser la comparaison avec le cyclisme de route. C'est que ces dernières années, c'était une vraie chasse aux sorcières contre le dopage mécanique. C'est un terme qui était devenu à la mode. L'UCI a même dû développer des caissons pour scanner les vélos. Donc on est vraiment... c'est le grand méchant dans le cyclisme sur route, l'électrique. Et aujourd'hui, on amène ça dans le VTT. Est-ce que c'est pas difficile à comprendre pour le grand public finalement ce paradoxe?
Non, il faut dire le vélo électrique est arrivé d'abord dans le VTT avant d'arriver sur les courses sur route. On l'avait développé justement pour le VTT de loisirs, les balades où c'est vraiment difficile. C'est vrai que c'est une assistance, il faut dire ce qu'il est. Mais non, en parlant de dopage, justement, moi aussi, ça c'est quelque chose que je peux pas voir, je ne peux pas entendre. C'est vraiment quelque chose. Ils font un très grand boulot, l'UCI et compagnie, pour lutter contre ce dopage. Mais par contre, il faut avouer que maintenant, il y a des vélos électriques qui sont performants, tout, et ça devient une nouvelle discipline. Il faut en profiter. Puis je pense que le paradoxe entre les deux disciplines, c'est peut-être même mieux pour le VTT traditionnel de dire, maintenant, la course vélo normale a eu lieu, la catégorie vélo électrique part. Oui, et puis les performances sont là, bon, ils sont aidés, typiquement, on ne peut pas comparer les deux.
Pour vous, c'est un sport mécanique, Henri Lachat? Vous diriez que c'est un sport mécanique maintenant, le IVTT?
Non, on ne peut pas le comparer à la moto ou n'importe, parce que non, ce n'est pas possible. On peut pas, il faut chaque fois, si on met un kilo de pression sur la pédale, oui. il va peut-être donner 2 kilos, 2,5 kilos, mais il va jamais, si on met 0 kilo, il ne se passera jamais rien. Donc on ne peut pas dire que c'est de la moto ou non, pas du tout du sport mécanique. Simplement, c'est une nouvelle discipline, on n'arrive pas encore à la centrer. La France l'a fait, on voit dans les enduros qui se passent principalement en descente. C'est vrai, comme il dit Mathieu, il y a des jeunes qui se tournent sur le vélo électrique. C'est vrai que ça fait un petit peu, ça peut être peut-être chagrinant pour une certaine personne, mais je remarque beaucoup que, enfin, tous les compétiteurs que je connais, que ça soit ouais, qui sont de bon niveau, ils font quand même toujours les deux disciplines. C'est pas parce qu'on fait de l'électrique qu'on n'a pas envie de voir ce qu'on vaut sans le moteur. C'est même pour certains une partie d'entraînement.
Et on sait aussi que pour organiser les courses, ça peut être une contrainte d'organisation. J'en discutais avec Jacques Ria, qui est coordinateur du Trophée Jurassien, qui disait, on se demande quand est-ce qu'il faut les faire partir, les IVTT avant ou après le peloton traditionnel. Il y a un problème de rythme qui se pose, ça peut être un souci, comme sur le Trophée Jurassien, par exemple, Mathieu Lovy, où bah, voilà, c'est une des courses qui sont organisées simultanément.
Alors moi, je pense effectivement que ça peut être un problème. Je dirais à la descente, moi, je pense que ça pose aucun problème. Les portions de plat, pas forcément, mais surtout dans les montées, parce que ils auront quand même un avantage net. Hein, faut pas rêver. On est même avec un très bon entraînement, concurrencer un vélo électrique à la montée.
Donc ça peut faire embouteillage.
Disons, j'ai l'impression que une personne qui fait le Trophée Jurassien, qui a un entraînement, je dirais, un peu de populaire, qui vient là pour se faire plaisir, donc il montera tranquillement, et puis il aura des vélos électriques qui le devancent, qui le dépasseront, et puis j'aurai un peu souci au niveau de la sécurité. C'est plus facile de se dépasser des personnes qui sont plus ou moins dans les mêmes vitesses, ouais, que tout d'un coup avoir un vélo électrique qui nous dépasse avec 5-6 km/h plus vite. Donc moi, je séparerai vraiment les deux catégories, mais je trouve que il faut être ouvert, hein. Moi, je pense que c'est bien de pouvoir d'ailleurs moi j'avais proposé aussi sur la Race Bike Show à Develier d'introduire le vélo électrique quand on avait été sponsorisé par un sponsor en lien avec l'électricité. Et puis ben, la problématique, c'était vraiment de savoir à quel moment on allait introduire cette catégorie dans notre horaire. Mais moi, je séparerais vraiment les choses. Okay. Que ça soit vraiment que les gens, le public, voient maintenant, OK, c'est une compétition de vélo électrique, et puis là, c'est une compétition sans vélo électrique.
Et ça peut mettre un coup au moral aussi quand un populaire se fait doubler par un électrique, se dire, mince, moi, finalement, je vois que j'avance pas. Le mot pour la fin,
bon,
pour
vous. A contrario, je trouve que moi, j'ai vraiment énormément de plaisir de dépasser des gens qui sont en vélo électrique.
Ah, bah ça, j'imagine. Ça, j'imagine que c'est grisant aussi. Le dernier mot de la fin pour vous, Henri Lachat, vraiment très court parce qu'on n'a plus de temps. Il n'y a pas encore de championnat de Suisse IVTT. Vous le réclamez, vous le revendiquez?
Oui, bien sûr. Il faut avancer avec cette nouvelle catégorie. Et puis, pour en revenir à ce qu'a dit Mathieu, effectivement, il faut faire très attention quand on met une nouvelle catégorie, comme au Trophée Jurassien. Ça sera pas une course, ça sera une balade. Il y aura un accompagnateur, parce que ça, il faut vraiment pas qu'on mélange les vélos électriques sur une compétition régionale avec les vélos traditionnels. Ça peut pas marcher. Pour aller même, il faut des professionnels pour arriver à essayer de concurrencer, je vais dire, un bon populaire en vélo électrique. Ouais. Et puis ça, il faut éviter sur les courses populaires. Vraiment, ça, je rejoins Mathieu. Il faut vraiment séparer les deux catégories.
Très bien, merci beaucoup Henri Lachat d'avoir été notre invité. On vous souhaite une bonne balade dans le Valais parce que vous y êtes sur votre vélo. Et merci beaucoup Mathieu Lovy également d'avoir été avec nous.
Bonne soirée.
Très bonne soirée, au revoir.
Merci bien.
Cap Sport.
Qui l'eût cru, 4-0, le naufrage de Neuchâtel-Xamax hier soir à la Maladière en match aller des barrages de promotion, relégation face à Haro. Tous les amoureux des Rouges et Noirs sont encore sous le choc. Justement, Pierre Thévenat, il porte ce club dans ses tripes, lui qui a connu les belles années de Xamax dans les années 80. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien joueur, consultant hier soir pour RTN, 24 heures après, Pierre Thévenat, est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé?
Comprendre non, parce qu'on aurait pu peut-être l'expliquer avant. mais toujours est-il que j'ai encore de la peine à le croire et je suis triste.
Il y a des fondamentaux du foot qui ont été oubliés hier soir, quand on revoit le résumé, quand on revoit les buts de ce qui s'est passé.
Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu un manque d'engagement de certains cadors, de certains taulards, comme on dit. Ça, je trouve que c'est pas admissible. Vous pouvez mal jouer, vous pouvez faire des mauvaises passes, vous pouvez être dans un jour sans, mais vous n'avez pas le droit de ne pas tout donner et de courir. À un certain moment, je trouve que Serédier a pas mal montré l'exemple, même qu'il n'a pas fait un match extraordinaire, mais au moins on a vu qu'il a essayé
d'aller... C'est lui qui a mis les frappes les plus dangereuses. Ouais.
C'est vrai qu'il a mis une belle frappe que Nikolić a détournée admirablement bien, dommage pour nous. Et à la fin aussi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, le gardien Nikolić, à 5-10 minutes de la fin du match, a eu la balle dans les pieds. Le centre-avant, enfin l'homme qui était le plus près de lui, de Xamax, c'était Ademi. Ademi, ben, il a regardé le gardien. Le gardien, il a attendu qu'on le presse, puisque personne venait le presser et le forcer à jouer. Et finalement, c'est Serédier qui était 15 mètres derrière Ademi qui a dû aller le presser. Je trouve ça dommage.
Pierre Thévenin, il s'est quand même passé de drôles de choses hors du terrain cette saison. La non-reconduction de Anchaud qui a été annoncée dans un timing et puis dans une façon peut-être qui a déplu à certains. Quelques jours avant le barrage aller, le futur club d'Anchaud est annoncé, le FC Sion. Là aussi, on peut se poser des questions sur le timing. Les joueurs n'ont pas forcément eu une vision claire du projet pour l'année prochaine ces trois derniers mois. Est-ce qu'au final, tout ça n'a pas pesé, selon vous, dans le non-match d'hier?
C'est sûr que les joueurs qui sont sans contrat, plus de 20, j'ai lu dans la presse comme vous, parmi eux, il y a des pères de famille qui peuvent avoir des soucis. Ça, je peux le comprendre. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que, ben, il n'est pas fait. Alors, le président va me dire, moi, c'est pas dans quelle ligue on va évoluer la saison prochaine. Ben, qu'il fasse deux types de contrats, un contrat pour la Super League, un contrat pour la Challenge League. Donc, comme ça, c'était réglé. Les joueurs savaient qui allait rester ou pas. Maintenant, par rapport à la situation de Stéphane Anchaud et la communication de Benglis, ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus.
Si par malheur, il y a descente dimanche, Pierre Thévenin, est-ce qu'il faudra trouver des coupables ou alors, pour vous, c'est le football?
J'ai pas compris. S'il y a quelque chose dimanche, qu'est-ce qu'il y a dimanche?
S'il y a descente dimanche, s'il y a relégation, est-ce qu'il faudra trouver des coupables ou alors est-ce que vous vous dites finalement c'est le football?
Avant de trouver les coupables et avant de dire la descente, moi je pense qu'il faut déjà tenter la chance là-bas. Moi j'y crois toujours. C'est pas parce qu'on en a pris 4 ici qu'on peut pas en mettre 5 là-bas. Je me souviens d'un premier match de championnat, le premier titre qu'on avait fait la saison 86-87. Le premier match de championnat, on va à Rau. Et à Rau, je crois, avait terminé deuxième ou troisième la saison dernière. Et on gagne 5-0. Donc c'était assez incroyable pour un premier match de championnat. Alors je dis pas que Xamax va aussi gagner demain, enfin dimanche va gagner 5-0, mais il faut y croire, on sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. On a tellement vu déjà de choses, de remontada, puisque c'est le terme à la mode maintenant, qu'il faut y croire, on sait jamais ce qui peut se passer dans le foot, vous savez. Ce qui est embêtant quand même, c'est que on sera privé de nous de Zolo. J'ai vu et suivi l'actualité comme quoi le recours avait été refusé, et puis en plus nous de Zolo... confirmé dans sa suspension.
Mais bon, Liverpool a retourné le Barça de Lionel Messi sans Mohamed Salah. Alors pourquoi pas? Merci beaucoup en tout cas, Pierre Thévenin.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On vous libère et on va rester dans le football et on va aller avec un autre consultant des Rouges et Noirs tout de suite. Avec Cyril Maillard. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Jérémy.
Effectivement, on parlait de remontada, ça a introduit parfaitement la Ligue des Champions parce que demain c'est la finale et puis il y a eu remontada en demi-finale, on s'en souvient. Peut-être juste avant de parler de Ligue des Champions, Cyril, votre réaction aussi sur Xamax, parce que vous êtes formateur à la Fondation Gilbert Facchinetti, abasourdi comme beaucoup aujourd'hui encore?
Oui, totalement, c'est un petit peu l'impression d'un non-match, en tout cas tous les événements contraires, et puis effectivement il y avait un petit peu de colère même chez certains supporters. C'était un peu incompréhensible de laisser ce match là peut-être le plus important de l'année, et c'est vrai que surtout le score et l'amplitude avec les événements qui ont marqué cette rencontre, et c'est vrai que là on est sorti aujourd'hui, on était un peu abasourdi, un peu sous le choc.
Peut-être juste en un mot, est-ce que ça change quelque chose pour la formation, vous qui serez l'an prochain directeur technique de la fondation?
Certainement que ça va changer un peu la donne. Si en cas de relégation, ça veut dire que l'équipe se trouve en Challenge League avec des moyens qui seront moindres. Ça veut dire que peut-être qu'il faudra voir les effectifs de nos équipes et peut-être qu'on devra anticiper, peut-être que certains joueurs prévus en M21 devront peut-être rejoindre le cadre de la première équipe. Ça me paraît difficile parce que c'est un peu tôt, mais d'après ce que je peux connaître un petit peu, on n'aura pas trop le choix parce que les budgets seront assez serrés.
On ferme la parenthèse Xamax, Cyril, pour parler Ligue des Champions, ouais, parce que demain c'est la finale Liverpool-Tottenham, un des matchs les plus attendus de l'année. Deux clubs anglais, comme en finale de la Ligue Europa. Alors dans leur championnat c'est très enlevé, la finale de la C3 mercredi elle n'a quand même pas atteint des sommets. Est-ce qu'on peut s'attendre à mieux selon vous demain, Cyril, en termes de qualité de jeu et puis de match qui fait un peu lever les foules?
Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu, on attend toujours beaucoup de ces moments-là, mais en fait c'est des fois l'effet de jeu, c'est des fois une équipe qui marque au début du match qui fait que tout à coup un match peut prendre des allures exceptionnelles, de match extraordinaire. On l'a vu en tout cas en demi-finale, c'était deux demi-finales fantastiques. Et je me souviens d'avoir un petit peu discuté avec vos confrères sur le plateau le lendemain des matchs, et on était vraiment enthousiasmés par ce qu'on avait vu. Finalement, c'est une finale anglaise, mais ça s'est joué à tellement de petits détails. Alors, on peut parler de fighting spirit, mais en même temps, ça s'est joué à tellement peu de choses, à quelques secondes, que je crois que les quatre demi-finalistes auraient très bien pu être en finale demain. Maintenant, c'est un choc anglais en Espagne, puisque ça sera à Madrid.
Oui.
On peut espérer qu'il y a un grand match, parce qu'effectivement, d'un côté, on a Liverpool, qui est quand même une institution. Et puis, de l'autre, on a Tottenham, qui fait sa première finale à ce niveau-là. Donc, ça me rappelle un tout petit peu la finale de la Coupe Suisse, avec évidemment les événements qui sont un petit peu différents, mais ça rappelle un petit peu le petit Toon, à l'occurrence, qui peut rentrer dans l'histoire. Donc Tottenham peut rentrer dans l'histoire. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas trop de pression sur cette équipe qui a fait déjà des miracles en éliminant quand même successivement Dortmund, Manchester City et puis l'Ajax qui menait 3-0 sur les deux matchs
à la mi-temps du
deuxième. Voilà, à la mi-temps du deuxième, c'était assez incroyable.
Sur Liverpool, on sent que c'est quand même une équipe en constante progression ces dernières années. Il y a le projet Klopp, elle était déjà en finale l'an dernier, défaite contre le Real, on le rappelle. On sent qu'ils tiennent une génération. Pour vous, c'est l'année Klopp, c'est l'année Liverpool?
Je l'espère franchement, parce que ça mériterait, franchement, parce que le nombre de points qu'ils ont fait en Premier League finir à un point du grand Manchester City. L'année passée, franchement, ils n'avaient pas été tellement été gâtés par leur gardien qui était passé totalement à côté de cette finale. Mais il n'y a aucune garantie. Un match comme celui-là, ça se joue aussi dans l'émotion, dans le mental. Et de ce côté-là, Tottenham est bien équipé, puisque Tottenham a prouvé lors de ses qualifications à la fois contre City et contre l'Ajax qu'ils étaient capables d'aller jusqu'au bout des exploits. Donc attention, méfiance. Sur le papier, je pense que tout le monde est d'avis que Liverpool a peut-être plus d'expérience, a les joueurs peut-être clés. Mais attention à ce Tottenham qui fait quand même des bons championnats. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'ils sont dans les 4-5 meilleures équipes de Premier League. Et puis, ce qui s'affirme cette année en Europe. Et c'est aussi bon pour le football.
Cyril Maillard, évidemment, quatre clubs anglais en finale européenne cette année. C'est aussi la domination d'un football athlétique, extrêmement rythmé, au détriment peut-être d'une pensée plus tactique du jeu. On l'a vu en demi-finale avec l'Ajax et le Barça qui sont tombés. Attention, je ne dis pas que les Anglais sont des bourrins qui jouent mal, mais vous, par exemple, qui êtes formateur à la Fondation Gilbert Facchinetti, est-ce qu'on suit cette tendance dans la formation? Est-ce qu'on va insister de plus en plus sur la dimension athlétique quand on forme des joueurs? Parce qu'on est en train de voir que c'est peut-être ça qui gagne, en tout cas en ce moment.
Oui, il faut faire attention, parce que ça voudrait dire que si chaque fois on se base sur ce qui gagne d'une année peut-être à l'autre, alors on devrait chaque fois changer notre fusil d'épaule. Et je pense que si on parle de la fondation, on a la priorité est plutôt dans la compréhension du jeu et l'aspect cognitif. Et puis la condition est un élément qu'on amène un peu plus tard. C'est vrai que la formation anglaise a fait d'énormes progrès. Et c'est vrai qu'ils comptent de joueurs avec une typologie un peu particulière. Quand on voit des Sterling qui sont capables d'éliminer, qui ont une vitesse. Et puis après, vous ajoutez ça à la mentalité, on va dire, des clubs anglais qui font que c'est vrai que ce sont des gens qui vont au bout d'eux-mêmes. Ce qui est appréciable au-delà de la qualité des joueurs, c'est la mentalité surtout.
Très bien.
L'Angleterre montre un bon exemple du football avec des joueurs qui se battent, qui ne sont pas toujours en train de réclamer. Et finalement, c'est pas que l'Angleterre, c'est pour tous les joueurs, les internationaux, puisque nos deux équipes vont compter un certain nombre de joueurs différents, de pays, voire de continents différents dans cette finale.
Parfait. Merci beaucoup Cyril Maillard. Je suis désolé, le temps file. On est déjà obligé de vous laisser. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Et puis on vous rappelle le programme du week-end, évidemment. Ce sera Aro, Neuchâtel, Xamax, barrage, retour dès 15h45 dimanche sur RTN. Ce sera en direct du Bruegelifeld à ne pas rater. Et on croise les doigts pour une remontada, comme on dit.
Cap Sport.